Le journal Ramambaï. Le gouvernement doit prendre au sérieux la lutte contre la fraude douanière. Cette recommandation est de la Ligue contre la corruption et la fraude qui condamne énergiquement cette pratique officialisée au Katanga. La pluie a causé des conséquences fâcheuses au Bas-Congo. 70 maisons ont été inondées à Kintanou dans le territoire d'Inkissi. À Bukavu au sud Kivu, une forte pluie a aussi arraché le toit de plusieurs bâtiments de la ville. Conditions de détention difficiles à la prison centrale de Cabinda au Kassai Oriental. Les prisonniers meurent de faim. Pour se nourrir, ils coupent et vendent de l'herbe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Ligue contre la corruption et la fraude basée à Lubumbashi dénonce ce qu'elle qualifie de fraude douanière, désormais officialisée au Katanga. Dans un communiqué de presse de la semaine dernière, l'ICOF recommande au gouvernement congolais de prendre au sérieux la lutte contre cette fraude douanière. Au gouverneur du Katanga, l'ICOF lui demande de tout mettre en œuvre pour rappeler à l'ordre tous ses collaborateurs ainsi que les responsables de tous les services publics. On écoute à ce propos le président de la Ligue contre la corruption et la fraude, Rachidi Akida, a été joint à Lubumbashi par Eugène Kabambi.
Lorsque vous constatez au niveau de Sassoumbalesa, les marchandises, les véhicules qui sont transférés passent sans être inquiétés par les autorités militaires, même pas de la police, parce que toutes ces organisations sont au niveau de la frontière, mais c'est officiel parce qu'il faut donner un peu d'argent aux responsables, soit de l'ANR, soit de la police, soit de l'armée, parce que tout le monde se trouve au niveau de la frontière. Vous donnez seulement un peu d'argent et vous voyez votre marchandise passer sans pour autant payer la douane. C'est dans ce sens-là que nous disons que c'est officialisé parce que tout le monde sait que ça passe d'une manière frauduleuse et moyenne à corruption. Nous sommes déçus par l'autorité provinciale.
Direction la province orientale, la division provinciale des mines dénonce ce qu'elle appelle l'incivisme fiscal chez les opérateurs miniers de Kisangani. Selon l'administration minière, il n'y a que 7 négociants de diamants sur les 54 implantés à Kisangani qui ont payé leurs taxes auprès de l'État congolais. De son côté, le président provincial de la Fédération congolaise de l'or et de diamants évoque bon nombre de raisons pour justifier cette situation. Explication dans ce reportage de José Deschartemenga.
Ce constat d'un civisme fiscal a été dressé hier lundi dans une conférence de presse par le chef des divisions des mines, M. Michel Lieté. Pour lui, ce constat est établi après qu'une mission du ministère des mines venue de Kinshasa a entamé avec lui une campagne de paiement de cartes de négociants. Michel Lieté, chef des divisions des mines.
Je vais vous dire que le constat est amer parce que, après s'être convenu avec nos partenaires sur les modalités de paiement d'une tranche de $500 dans un premier temps, nous constatons que pour le moment, sur les 54 maisons d'achat installées à Kisangani, il n'y a eu que 7 maisons d'achat qui ont payé spontanément le $500. 12 qui ont donné des acomptes qui n'atteignent pas $500 et les autres pratiquement n'ont rien donné pour le moment. C'est l'incivisme fiscal.
Pour le président provincial de la Fédération de l'or et du diamant, Fekodi, ses membres ne refusent pas de payer les taxes. Toutefois, il voudrait poser un préalable. Préalable à discuter avec le gouverneur de province, Jean-Pierre Lola Kisonga, de son retour de Kinshasa, selon M. Tokole.
Nous avons envie de payer. Nous entendons le retour de l'autorité provinciale parce qu'il nous a fait fixer une audience, un rendez-vous. Je pense qu'à l'issue de cet entretien, on pourra avoir beaucoup de solutions.
Rappelons que la carte de négociant est une taxe de $3000 américains fixés sur décision conjointe du ministre des Finances et de son collègue des mines. Mais pour les négociants du diamant qui sont gagnés, une concession a été faite par l'administration minière locale pour verser un premier acompte de $500 américains. Qui sont gagnés, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Mécontentement des clients de la société d'électricité du Congo à Chikapa, au Kassai Occidental. Ils ont manifesté hier lundi et la semaine dernière. Ses abonnés reprochent à l'entreprise privée EDC de surfacturer le coût de l'électricité. Sachez que l'EDC dirige et gère la centrale hydroélectrique Lugundi, cédée par la SNEL. Témoignage d'un client.
Les factures là sont exorbitantes. Ils ont prévu le mois de août et le mois de septembre. Un montant de $17, de $18, on totalise $34. Mais quand nous calculons, nous n'avons pas consommé le mois d'août et le mois de septembre. Et même si nous avons consommé cela, mais le prix qu'on a est exorbitant. Dans le sens que pour le premier tour, la facture s'est élevée à $3,5. Mais aujourd'hui, on demande $17. Maintenant, nous demandons qui doit intervenir, parce que dans cette facturation, il y a même la CAA, le CCA, il y a même quelques droits de l'hôtel de ville, et alors on totalise ça $17.
Le directeur de l'EDC affirme que c'est un malentendu qui a pour origine la vétusté du matériel. Pénélope Tchandaluka souligne que les factures sont établies selon l'arrêté du ministère de l'Énergie d'avril 1998 en application depuis août 2005. On écoute Pénélope Tchandaluka.
J'ai amené ici les rapports de nos services techniques. Il s'avère que, heureusement pour eux, depuis le 13 septembre, les transports qui desservent l'Airline est tombé en panne. Et leurs factures sont en train d'être corrigées de manière à ce qu'ils ne payent que les jours et les mois de service. Par rapport d'abord à la tarification de l'énergie électrique, la tarification qui est d'application actuellement a été fixée par un arrêté du ministre. Et nous l'appliquons de façon transitoire en attendant que les conditions soient réunies pour que la tarification soit arrêtée sur la base des données propres à EDC. Au regard de la mise en œuvre du contrat de construction de service qu'elle a conclu avec l'État congolais, qui tient compte des jours et les mois de service en électricité.
Vol à main armée dans la nuit d'hier aux facultés catholiques de Kinshasa dans la commune de Limété. Près de $20 000 américains et plus d'1 million de francs congolais ont été emportés par des voleurs, ont affirmé les administratifs de cette institution universitaire. Selon les sentinelles retrouvées ligotées le matin, 7 hommes armés, habillés en civil, ont cassé aux environs de 2 heures du matin les portes de la caisse et de l'antichambre du coffre-fort. Des éléments de la police d'intervention rapide ont ouvert une enquête. Il faut rappeler que les facultés catholiques de Kinshasa ont connu il y a 2 ans un cas de vol à main armée. L'enquête menée par les éléments de la police communale n'a jamais été conclue. Direction Bas-Congo, plus de 70 maisons inondées et plus de 3000 personnes sans logement dans la cité de Kintanou, dans le territoire d'Inkissi. C'est le bilan de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche. Cette pluie a causé le débordement de la rivière Inkissi qui s'est déversée jusque dans la cité. Récit des faits, Guy Roger Nyampala.
80 maisons situées dans le quartier Carrière, Wombo, Fouki et Kimbondo, dans la cité de Kintanou, totalement inondées. Selon les informations à notre possession, ces maisons continuent à s'écrouler. Environ 3800 personnes sont sans abri et attendent d'être secourues. D'après Michel Maduka, conseiller technique au gouvernorat du Bas-Congo, une commission de crise a été mise en place. Pour l'instant, a-t-il dit, différents services et le commissariat de district sont en train de procéder à l'évacuation des populations dans cette zone sinistrée en attendant que des mesures fortes soient prises. Rappelons que cette inondation n'est pas la première. La dernière en date a eu lieu en décembre 2004. À l'époque, il a été demandé aux populations vivant aux abords de la rivière Inkissi de quitter ces lieux, chose qui n'a pas été faite. De Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Même scénario à Bukavu, dans le sud Kivu, où une forte pluie a causé de nombreux dégâts hier lundi. Des bâtiments importants comme la cour d'appel et la division de la fonction publique ont perdu leur toit. Dans plusieurs quartiers, des maisons ont été fortement endommagées. Serge Maéché.
Dans l'avenue Niofou et les quartiers marécagés de Moukoukoué, on pouvait voir depuis ce matin les femmes et les enfants attelés à ramasser les ustensiles de cuisine qui ont été emportés par des trompes d'eau qui se sont déversées dans leurs maisons. Les toits de plusieurs bâtiments officiels ont été emportés, ils jonchaient dans la rue. C'est le cas d'un bâtiment logeant 3 divisions de l'État au quartier La Botte. Les responsables de ces divisions affirment avoir perdu nombreux documents importants inondés par l'eau de pluie. Une autre victime de cette tempête, c'est la radio sœur Maindéléo, dont le pylône supportant l'antenne s'est écroulé et écrasant ainsi 2 véhicules de cette radio. Dans d'autres quartiers périphériques de Bukavu, des familles ont passé la nuit dehors ou chez les voisins après que cette tempête ait détruit leur maison. Et enfin, au quartier Nkafu, les habitants parlent de 15 maisons endommagées. Bukavu, Serge Maéché, Radio Okapi.
En Ituri, les autorités sanitaires du district d'Arumaagi appellent à l'aide du gouvernement et des organismes internationaux pour résoudre plusieurs difficultés de fonctionnement de l'hôpital général de référence d'Arou. Cet unique hôpital pour 13 zones de santé ne compte qu'un seul médecin. Faute de matériel dans les différents services, les malades sont transférés en Ouganda. Explication de l'administratrice gestionnaire de l'hôpital d'Arou, Antoinette Akogiko.
Nous avons des difficultés pour l'encadrement de nos malades, surtout les malades qui ont des problèmes de diagnostic interne, ce qui nécessite l'échographie et la radiographie. Après avoir diagnostiqué les problèmes internes, nous sommes obligés de leur fournir une note de transfert en Ouganda. Et il faut que nos malades puissent franchir la frontière pour aller et attraper là où on peut diagnostiquer leur maladie interne. Vous imaginez les coûts de transport, les coûts d'immigration, le coût de séjour en Ouganda. Ça aurait été un montant minime si ces gens étaient soignés et leur maladie était diagnostiquée ici. Le coût n'allait pas être exorbitant. Si nous voyons le coût total, c'est plus que même le quadruple de ce qu'ils vont dépenser de l'autre côté. Vous voyez, c'est la population qui vit du produit vivrier. Tout le monde n'est pas à mesure de se procurer cet argent pour faire ce trajet et pour surmonter les coûts de l'autre côté.
Conditions de détention difficiles à la prison centrale de Cabinda, un territoire situé à 180 km à l'est de Mbujimayi. Plus de 25 prisonniers croupissent dans des établissements délabrés et ne mangent pas tous les jours. Pour se nourrir, les prisonniers sont obligés de couper et vendre de l'herbe. Reportage Nike Mputu.
Sans aucun lit, toiture suintante et délabrée, pas de soins médicaux. C'est dans ces conditions que les prisonniers, femmes et hommes mélangés, vivent dans la prison centrale de Cabinda. Cet établissement pénitentiaire reçoit des détenus venant de tous les districts, obligeant les familles à parcourir parfois plus de 150 km pour leur rendre visite. Conséquence, les détenus ne reçoivent aucune assistance alimentaire. Le directeur de la prison, M. Nyongoni, estime que la seule solution est de leur donner l'occasion de se prendre en charge en les laissant travailler dans la cité en dépit des risques d'évasion.
Les détenus sont abandonnés à eux-mêmes. Le gouvernement ne songe plus à eux. On ne reçoit plus de soucis pour la survie des prisonniers. Ici, je les fais sortir pour des petits travaux de contrat à la cité. Peut-être même de la paille. Avec une boîte telle, nous vendons ça à 50 francs. Imaginez-vous, vous-même, avec cette population que j'ai, avec un seul méca là de 200 francs, vraiment, nous sommes dans de grandes difficultés. Il y a déjà eu des décédés ici par négligence. Il y a eu un qui s'est évadé du côté là où ils vont faire des petits contrats.
L'ONG Fraternité des Prisons, en charge de la gestion de la ration alimentaire dans quelques établissements du Kassai Oriental, dénonce également les conditions d'incarcération et le manque de moyens dont elle dispose. Pour le coordonnateur de cette ONG, Abel Ubuika, il n'y a probabilité de nourrir les prisonniers qu'une fois par mois. De son côté, le chef de division de la justice déclare que Cabinda n'est pas une exception et que tous les prisonniers souffrent de mêmes conditions de détention. Mbujimayi, Nike Mputu, Radio Okapi.
Après la promulgation de la Constitution de la Troisième République par le chef de l'État, tous les acteurs politiques n'ont pas la même lecture au Katanga quant à l'entrée en vigueur de cette Constitution. Pour les uns, c'est tout de suite. Pour les autres, c'est après les élections générales, car le pays reste encore géré par la Constitution de la Transition. Présentation aujourd'hui au Parlement du calendrier prévisionnel des élections en République démocratique du Congo. Ce calendrier prévoit 116 jours pour le dépôt des candidatures, la production des listes électorales et l'acheminement du matériel dans les chefs-lieux des provinces avant la tenue des premières élections. Le vice-président de la Commission électorale indépendante a souligné que cette période débute au lendemain de la promulgation de la loi électorale par le président de la République. Norbert Basengezi Kantitima a par ailleurs souligné que 43 jours devront s'ajouter à cette période au cas où il y aurait un deuxième tour pour le scrutin présidentiel. Cette loi est en train d'être débattue en ce moment au Parlement au cours de la plénière mixte Assemblée nationale-Sénat. Poursuite ce mardi à Bangui, en République centrafricaine, de la troisième réunion interministérielle de la Conférence internationale sur les Grands Lacs. Selon le ministre congolais à la coopération régionale, la RDC a beaucoup à gagner en s'intégrant dans la région des Grands Lacs. Les 11 ministres de la région des Grands Lacs se préparent à finaliser une trentaine de projets sur la paix, la démocratie, le développement économique et les affaires humanitaires. Pour Moussa Nyamouissi, la majorité des projets concernent la RDC. On l'écoute au micro de Jean-Claude Toumbakamang.
Il faut dire que de tous ces projets-là, un peu plus de 50% concernent la RDC. Le barrage d'Inga, la réhabilitation de la CPGL, les bassins transfrontaliers entre tous les pays qui environnent le Congo, C'est une conférence en fait qui réunit le Congo, ses 9 voisins plus le Kenya. Donc le Congo est central dans cette conférence.
RDC donne toujours ou elle a à recevoir aussi?
Non, elle a aussi à recevoir, elle ne peut pas tout donner, elle n'a pas toujours à donner. Là. Nous devons travailler avec les autres, le monde est déjà, si vous me passez le terme, nous sommes dans une mondialisation qui se fait. Il faut qu'elle se fasse avec nous, sinon elle se fera sans nous. Nous mettons ensemble les énergies que nous avons, nos ressources que nous avons, aussi bien humaines que matérielles. Nous avons besoin de l'expertise étrangère pour nous aider à les transformer en richesses réelles.